l'actualité des idées aujourd'hui. Gilets jaunes, peut-on analyser l'histoire en cours au lendemain de l'acte 12 de ce nouveau samedi de mobilisation centré sur la dénonciation des violences policières, notamment à Paris avec la marche dite des blessés. Et alors qu'un appel à la grève générale a été lancé pour le 5 février, retour sur l'étude, l'analyse d'un mouvement dit inédit par la recherche. Car si les événements extraordinaires échappent aux explications ordinaires, selon les mots d'Edgar Morin, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Un ouvrage collectif vient de paraître sous la direction de Joseph Confavreux, rassemblant une vingtaine de contributions. Le fond de l'air est jaune, comprendre une révolte inédite paraît au seuil et entend dégager quelques lignes de fond. Invité le philosophe Jean-Claude Monod, chargé de recherche au CNRS, enseignant à l'ENS Paris, auteur précédemment de « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?» au seuil, c'était en 2012, et de « Penser l'ennemi, affronter l'exception à la découverte ». Bonjour à vous Jean-Claude Monod.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les sciences humaines, toute la recherche en fait dans son ensemble, ceux qui habituellement pensent ce qui nous arrive, ont été, un peu comme les journalistes aussi, bousculés par ces événements. Qu'est-ce qui a été le plus remué? Les cadres de pensée, les grilles de lecture habituelles, et évidemment en quoi pour vous Jean-Claude Monod?
Comme vous l'avez dit, c'est un événement inédit par certains côtés. Donc je pense que ce qui a d'abord surpris, c'est peut-être la forme de ce mouvement, son mode de mobilisation qui n'était pas déjà un mouvement qui suivait un leader, ce qui n'était pas non plus un mouvement encadré par un syndicat ou par des partis. Donc c'était, pas tout à fait inédit, en ce sens qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de mouvements sans chef éventuellement, de mouvements qui suivaient un mode de mobilisation virale, c'est-à-dire qui se mobilisaient essentiellement à partir des réseaux sociaux, qui avaient aussi des ancrages locaux, mais souvent quand même avec un point central, qui peut être une place, un parc, etc. Alors que là, c'était un mouvement très moléculaire, avec beaucoup de centres, si l'on veut. Donc je crois que ça c'était la première surprise. C'était un mouvement d'ampleur nationale, mais sans encadrement. Et ensuite, qui n'empruntait pas peut-être au répertoire habituel des luttes sociales, qui s'inscrivaient aussi, qui mobilisaient des gens qu'on entend assez peu. Qu'on entend assez peu, y compris dans les mouvements sociaux, et qui s'était d'abord mobilisé sur une mesure très ponctuelle, apparemment, et disons, ça avait fait tache d'huile. Donc, je pense, il y avait la surprise du mode de mobilisation, la surprise, disons, du socle sociologique, bon, qui était d'ailleurs assez difficile à définir au premier regard. Je pense que ça a été aussi ça un défi pour les sociologues et les économistes. Et puis ensuite, même essayer de caractériser politiquement ce mouvement était difficile. Donc je pense qu'effectivement, c'était une sorte de défi ou d'incitation pour les sciences sociales à aller y voir de plus près et à éventuellement mettre en question des types d'interprétations un peu consacrées des mouvements sociaux qui ont pu dominer les dernières décennies.
Politiquement et historiquement, on a entendu des parallèles être faits avec la Révolution française, on a parlé de Jacquerie, aussi d'un certain poujadisme. Les historiens se sont arrachés les cheveux à essayer de recerner, redéfinir ce qu'étaient ces moments aussi de l'histoire de France et en dresser, évoquer les similitudes, mais aussi les différences qu'il pouvait y avoir entre ces moments-là et ce qui se joue aujourd'hui. On voit aussi qu'il est très difficile de définir un mouvement historiquement quand l'histoire est encore en train de s'écrire. Vous, comment vous le caractériseriez, ce mouvement des Gilets jaunes, cette crise des Gilets jaunes, politiquement? Alors là, c'est le regard du philosophe qu'on va appeler.
Moi,
qu'est-ce qui vous a convaincu?
Puisque vous renvoyez au pédigré philosophique, disons, il y a une notion qu'avait employé Michel Foucault, c'était crise de gouvernementalité. Alors le mot gouvernementalité est un peu peut-être étrange, mais c'est pour désigner un moment où les gens ne veulent plus être gouvernés d'une certaine façon, comme disait Foucault. Il y a des mouvements qui disent d'abord cela, nous ne voulons plus être gouvernés ainsi, et qui ont jalonné l'histoire. Là, on peut remonter même en deçà des mouvements que vous citiez, en deçà de la Révolution française. Alors, il y a sans doute les jacqueries, mais il y a même des formes qui ont pu s'attacher d'ailleurs à des questions religieuses au départ, des questions de pastorat, de savoir qui doit interpréter la Bible. Bon, il y a toute une histoire longue des mouvements de contestation du pouvoir et du contestation des modes de gouvernement. Alors ça s'est tout de même cristallisé autour d'une question fiscale et d'une question plus largement économique. Donc je crois que c'est quand même un mouvement animé par un désir de justice fiscale et sociale. Je pense que c'est quand même, d'ailleurs, c'est ce qui se dégage peut-être aussi de ce collectif d'essais, c'est d'insister sur cette dimension de la revendication de justice et d'un mode de gouvernement qui prenne davantage en compte des personnes qui sont éloignées des centres de décision politique, y compris éloignées de la capitale, parce qu'il y a quand même cette dimension de contestation d'un pouvoir à la fois central et distant. Distant aussi dans le mode de gouvernement qu'a adopté Emmanuel Macron, sans doute à travers alors bon des phrases qui ont été mises bout à bout et qui ont semblé donner une impression de mépris. Donc c'est peut-être aussi ce que la philosophie allemande, notamment la philosophie sociale allemande, avait appelé une lutte pour la reconnaissance, c'est-à-dire des gens qui veulent être pris en considération et qui essayent de rappeler leur dignité et leur droit à exprimer leur opinion sur ce qui se passe. Donc voilà, c'est protéiforme, et justement une crise de gouvernementalité, c'est protéiforme, c'est-à-dire ça attaque peut-être d'abord une question locale, et puis ça s'élargit à un « nous ne voulons plus être gouvernés ainsi ». Alors après, ça pose la question de savoir comment on veut être gouverné, et ça, c'est une autre paire de manches.
Et ça, on va y venir ensemble, parce que cette question de la gouvernance ou de la gouvernabilité, c'était aussi au cœur de votre ouvrage « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ?» sur ce qui fait démocratie, sur la manière dont nous voulons être représentés, sur ce que la figure du chef peut ou doit incarner. Là, dans cet ouvrage collectif, « Le fond de l'air est jaune », comprendre cette révolte inédite qui paraît au seuil, vous avez, vous, choisi d'intervenir sur la question ou sur l'angle des causes, sur les raisins ou les raisons de la colère et ce qui a pu provoquer ce mouvement. En quoi, pour vous, cette crise des Gilets jaunes est une manifestation d'abord de la crise de l'État néolibéral ?
Mais, si vous voulez, je pense qu'il y a eu la perception d'une injustice dans la politique économique et fiscale. Et cette injustice renvoie au programme néolibéral qui a été, je crois, très clairement porté par Emmanuel Macron. Alors, de manière caricaturale, on pourrait dire c'est un programme qui consiste à dire qu'il faut aider les plus riches et responsabiliser, entre guillemets, les pauvres. C'est-à-dire il faut aider les riches, notamment en supprimant partiellement l'ISF, en simplifiant le code du travail, etc. Et dans le même temps, alors c'était pas tout à fait le en même temps de la campagne, mais dans le même temps, on va dire on baisse les APL, les allocations donc d'aide au logement. On parle du pognon de dingue que coûteraient les aides sociales. Et donc ça renvoie à cet imaginaire néolibéral qui consiste à penser que l'État doit, d'une certaine façon, pousser la société à s'adapter aux exigences du marché, y compris en contournant ou en affaiblissant les forces sociales qui pourraient, s'opposer à cette fluidification, donc tout ce qui consiste en statut, en défense du travailleur qui serait trop rigide, etc. Et je pense que si vous mettez ensemble, vous voyez, quelque chose comme la suppression partielle de l'ISF et des mesures qui demandent des efforts assez importants à des catégories de la population qui déjà estiment qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts, comme c'est beaucoup dit par les Gilets jaunes, voilà, il y a un sentiment d'injustice. Et de toute façon, je pense qu'effectivement, pour le sens commun, et le sens commun est bien fondé de ce point de vue-là, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible qu'on dise d'un côté, il n'y a plus d'argent du tout pour ceci, cela, c'est-à-dire notamment pour tout ce qui concerne l'état social, où il y en a de moins en moins, il faut faire de plus en plus d'efforts de ce point de vue-là. Et par ailleurs, on peut accorder des milliards aux plus riches et, aux entreprises qui elles-mêmes sont déjà très très largement bénéficiaires. Donc ce sentiment d'une contradiction, qui est, je crois, la contradiction du néolibéralisme, a été très fortement exprimé. Et moi, pour cela, d'ailleurs, je pense que c'est un mouvement très positif qui dit « ça n'est plus possible, ça n'est plus possible ce discours ». Il y a un sentiment de ras-le-bol par rapport à ce discours. Et dire, ils n'ont pas encore compris, on va faire de la pédagogie, on va expliquer qu'il y aura du ruissellement, qu'il y aura les premiers de cordée qui vont bénéficier à tout le monde. Simplement, il y a un moment où ça n'est plus acceptable. Parce qu'aussi, je pense que ça repose sur l'idée qu'il n'y a pas d'intelligence collective. Que l'intelligence est quand même en haut, qu'elle est quand même monopolisée par des gens qui sont assez homogènes socialement, qui sont des hauts fonctionnaires, passés par le privé, qui passent par le privé, par le public. République, par la banque, par le... et donc qui sont à peu près d'accord pour penser qu'il faut aider les plus riches. Mais voilà, c'est un sentiment qui n'est pas du tout partagé, et ce non-partage est bien fondé. C'est simplement la démocratie, c'est le fait que les gens, depuis d'autres points de vue sociaux, voient les effets de cette politique. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a quelque chose de ce ras-le-bol de l'État néolibéral. Ça ne veut pas dire que l'État français soit la réalisation des idéaux néolibéraux de Hayek et autres, mais ça veut dire que l'État actuellement...
Non, vous montrez bien qu'il y avait un compromis jusqu'ici qui était respecté, et qu'en ce moment, la balance, ou ces dernières années, la balance a été complètement déséquilibrée aussi.
Voilà, voilà, c'est une affaire de balance, et bien sûr, il existe encore en France un État social important, et un taux de prélèvement d'ailleurs qui est aussi dans le débat. Mais l'État néolibéral, c'est un État qui est aux prises avec ce programme, avec ce discours, où on a l'impression qu'il y a voilà, la start-up nation qu'il faut pousser, et puis il y a ceux dont on ne sait pas trop quoi faire, il faut les responsabiliser, ils déconnent, dit Emmanuel Macron, les chômeurs, etc. Donc il y a cette espèce de double discours qui est devenu, je crois, assez insupportable pour une grande partie de la population. Et alors ce ras-le-bol peut prendre des formes, d'ailleurs éventuellement dangereuses pour la démocratie. Hein. Je crois que c'est un mouvement qui n'est pas du tout univoque et qui, à certains égards, peut inquiéter. Mais je pense que ce qu'il exprime dans le fond, c'est quand même ce sentiment d'injustice. Et ça, je crois que c'est très important.
Alors à la question du pourquoi maintenant, parce que tout ça n'est peut-être pas nouveau, pourquoi maintenant, vous l'évoquez, pour vous, le mouvement a aussi exacerbé une contradiction exhibée par Emmanuel Macron lui-même, contradiction qui est en train de lui revenir comme un boomerang. Extrait et retour sur une philosophie des mots adressés par Emmanuel Macron lors d'un débat citoyen, c'était le 25 janvier dans la Drôme.
Moi, je voulais que le système change, comme vous. Mais je l'ai fait par une voie démocratique. J'ai dit, moi, je crois en mes idées, je veux que le système change. Et donc, je veux proposer, et deux, je vais à l'élection. Mais changer le système, c'est pas simplement dire, je vais pas à l'élection, foutez le système en l'air, et moi, je suis une colère, mais j'ai pas de truc à proposer. Faut proposer des vraies réformes, mais la vraie réforme, elle va avec la contrainte, les enfants. Parce que si derrière on veut ceci, comment on le finance? C'est pas open bar. Le bar, c'est le nôtre. Et ce qu'on boira et qui n'était pas sur notre compte, c'est nos enfants qui ne l'auront pas. Bon, donc là-dessus, il faut qu'on retrouve la raison. Vous avez raison de vous indigner contre les injustices du quotidien. Je partage cette indignation. On a commencé à en réparer, on en fera d'autres. Chacun des points que vous évoquez, je ferai tout pour qu'on les trouve, y compris dans les cas particuliers. Que le système ne marche pas comme il devrait, je suis 100% d'accord avec vous. Qu'on se doive le respect dans la société, 100% d'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire on va tout mettre en place parce qu'on est en colère.
Alors commençons par ce avec quoi le président de la République semble d'accord. Est-ce qu'il a pris conscience pour vous du retour, de ce retour de boomerang, Jean-Claude Monod?
Pour une part, je pense qu'il a été obligé de prendre en compte hein, le fait que un certain ton, une certaine attitude était devenue impraticable. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il ait été dans des mairies dialoguer alors avec les maires, qui était plutôt un échelon qu'il avait eu tendance à ignorer, traduit certainement hein, une prise de conscience du fait qu'on ne peut pas diriger tout depuis l'Élysée sans, disons, sonder un peu le territoire et les niveaux intermédiaires. Là, c'était déjà un retour de boomerang, parce que je pense que dans ce qu'Emmanuel Macron avait prôné, il y avait une sorte de, au fond, de face-à-face, hein, d'idée qu'il était lui-même, au fond, l'élément qui allait effectivement changer, d'une certaine façon, le système politique dans sa polarisation droite-gauche notamment, mais dans une sorte de face-à-face avec le peuple direct et sans intermédiaire. Et là, il s'est aperçu qu'il fallait quand même retisser le rapport avec les niveaux intermédiaires. Maintenant, on entend évidemment ce ton qui reste extraordinairement condescendant, c'est-à-dire la vraie réforme, ça va avec la contrainte, les enfants, bon, c'est-à-dire le paternalisme, qui, il faut le rappeler quand même, le mode de gouvernement républicain ou démocratique s'est construit contre le paternalisme. Si vous lisez les grands textes depuis les Lumières hein, de Kant, etc., ce sont des gens qui disent, voilà, ce qui change fondamentalement avec la République ou la démocratie, c'est que le dirigeant ne peut pas traiter les sujets comme s'ils étaient mineurs, comme s'ils étaient des enfants. Les sujets ne sont pas des enfants. peut-être ils doivent obéissance d'une certaine façon, mais ils doivent obéissance s'ils sont considérés comme majeurs, c'est-à-dire comme capables aussi d'exercer leur jugement et de donner leur avis. On ne peut pas leur dire les enfants, vous ne comprenez rien à rien, et que la vraie réforme, ça va avec la contrainte. Bon, ce qui renvoie là vraiment à cet imaginaire, qui fait que d'ailleurs le néolibéralisme, dans certaines de ses versions, est un libéralisme autoritaire. C'est un libéralisme qui considère qu'il sait qu'il y a des réformes indispensables pour s'adapter aux contraintes des marchés, et que donc la société doit être forcée, d'une certaine façon. La société doit comprendre, ou pas, d'ailleurs si elle ne comprend pas, tant pis, il faut passer en force. Donc c'est ce thème du passage en force qui est présent dans un certain néolibéralisme. Je dis un certain parce qu'on pourrait compliquer la chose, hein. Il y a d'autres formes de néolibéralisme, même au départ, dans les années 30, chez les ordres libéraux allemands, il y a plutôt l'idée qu'il faut protéger la société contre sa propre éclatement, et donc en un sens soutenir la société. Mais il y a une forme qui est plus agressive de néolibéralisme, qui consiste à dire qu'il faut la forcer à s'adapter à une fluidification économique, des formes d'extension de l'idée de marché à tous les secteurs de la société. Et malheureusement, bon, Emmanuel Macron, on pouvait se demander un peu de quel côté il allait pencher, puisque en un sens, je pense, dans sa campagne, il avait mis aussi quelques signaux qui avaient l'air de pointer du côté d'un certain souci d'équilibre. Mais il me semble que ce souci a disparu dans son gouvernement effectif. Et donc, voilà, il n'est resté que cette impression d'un passage en force, d'une volonté de passer en force des réformes de plus en plus impopulaires. Quand même, je crois qu'il y a un récent sondage qui disait que 72% de la population trouve que la politique économique et sociale du gouvernement est mauvaise, ce qui est quand même considérable. Et donc, continuer avec le discours du passage en force dans ces conditions me semble quand même extrêmement périlleux.
Mais on a beaucoup entendu, quand il est question de référendum, de mettre en place d'autres outils démocratiques, que la France n'avait pas cette culture-là. Qu'est-ce que vous comprenez-vous à travers ça?
La question de la culture politique, c'est une question intéressante et compliquée. Et parfois, évidemment, on met dans cette culture politique ce qu'on veut bien y mettre. Alors, je crois qu'Emmanuel Macron l'a utilisé récemment pour dire que la France était totalement différente de la Suisse. La Suisse qui a une tradition de référendum, d'initiative citoyenne ou populaire sur des questions extrêmement variées, avec justement des choix qui concernent aussi bien d'ailleurs la vie quotidienne, des votations, comme on dit, qui permettent de donner son avis sur énormément de questions. Et je pense qu'il y a...
Alors est-ce que justement vous pensez que nous serions culturellement inaptes à pratiquer cette forme de...
Je ne crois pas qu'il y a une inaptitude. Je crois qu'il y a des choix. Il y a un choix qui a été un peu le choix de la Ve République, qui est un choix gaullien, qui concentre le moment démocratique dans la désignation du dirigeant suprême, surtout depuis l'élection du président de la République au suffrage universel direct et du Parlement. Maintenant, avec les mutations qu'on a connues, qui montrent d'ailleurs que il n'y a pas une culture politique intangible, évidemment, c'est-à-dire avec le fait que les élections législatives viennent après la présidentielle, on a un système qui est de façon assez flagrante déséquilibré, c'est-à-dire Emmanuel Macron a une majorité qui est complètement à son service. Alors, on voit peut-être quelques voix qui essaye de se faire entendre un peu plus aujourd'hui dans son mouvement, mais c'est quand même un mouvement qui lui doit tout, donc évidemment il ne peut pas tellement, y compris des députés qui ont été élus sur son nom, s'opposer à lui. Donc là il y a quelque chose de déséquilibré, une concentration de la décision qui est bien, bien excessive, et l'expérience suisse, ou d'ailleurs certaines formes d'expérience sud-américaine ou américaine, pourrait tout à fait nourrir la politique française. Même moi, j'ai regardé avec pas mal d'attention les débats qu'il y a eu au moment de la Révolution française. Les gens s'inspirent de la Suisse, les gens s'inspirent des États-Unis. C'est absolument faux que la France serait sui generis. Enfin, la France a inspiré d'autres pays, bien sûr, mais elle s'est inspirée de la Révolution américaine, des expériences constitutionnelles américaines. Elle s'est inspirée aussi de la Suisse. Donc, et Rousseau, après tout, était suisse. Et Rousseau est une des grandes références de la Révolution française. Donc je crois que c'est absolument faux de considérer que les cultures politiques sont hermétiques. Ensuite, certainement, il y a un attachement en France à un certain modèle présidentiel. Je pense qu'on ne va pas tourner la page du jour au lendemain de cela, mais ça ne veut pas dire que ce modèle soit incompatible avec des formes de démocratie plus directe. Moi, je pense que la démocratie directe ne va pas se substituer à la démocratie représentative, mais la démocratie représentative peut être plus directe. Et d'ailleurs, Pierre Rosanvallon, qui intervient dans ce volume, parle souvent de démultiplier les formes de représentation. C'est plutôt de ça qu'il s'agit, je pense, plutôt que de substituer à la démocratie représentative une démocratie directe.
Le philosophe Jean-Claude Monod est notre invité jusqu'à 13h30. Il est l'un des contributeurs de cet ouvrage dirigé par Joseph Confavreux, Le fond de l'air est jaune, comprendre une révolte inédite qui paraît au Seuil. France Culture, il est 13h17.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Les 26 et 27 janvier, dans une petite ville de la Meuse, à Commercy, une assemblée des assemblées s'est réunie. Des délégations se sont rendues là-bas. Ensemble, elles ont tenté de créer une sorte d'autre modèle de coordination. On en parlait à l'instant avec vous, Jean-Claude Monod, de ces autres formes de démocratie qui pourraient se mettre en place aujourd'hui. Je vous propose d'écouter les mots de l'appel à se réunir des Gilets jaunes de Commercy.
Depuis près de deux semaines, le mouvement des Gilets jaunes a mis des centaines de milliers de personnes dans les rues partout en France, souvent pour la première fois. Le prix du carburant a été la goutte de gasoil qui a mis le feu à la plaine. La souffrance, le ras-le-bol et l'injustice n'ont jamais été aussi répandus. Maintenant, partout dans le pays, des centaines de groupes locaux s'organisent entre eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois.
Ici, à Commercy, en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires, quotidiennes, où chaque personne participe, à égalité. Nous avons organisé des blocages de la ville, des stations-service et des barrages filtrants. Dans la foulée, nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous y retrouvons tous les jours pour organiser, décider des prochaines actions, dialoguer avec les gens et accueillir celles et ceux qui nous rejoignent dans le mouvement. Nous organisons aussi des soupes solidaires pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître en toute égalité. Mais voilà que le gouvernement et certaines franges du mouvement nous proposent de nommer des représentants par région, c'est-à-dire quelques personnes qui deviendraient les seuls interlocuteurs du pouvoir public et résumeraient notre diversité. Mais nous ne voulons pas de représentants qui finiraient forcément par parler à notre place.
Quand on sort du mode de représentation traditionnel, Jean-Claude Monod, c'est compliqué de voir comment mettre en place une vraie démocratie. Est-ce que la vraie démocratie, pour vous, aujourd'hui, elle est sur les ronds-points ?
Pas seulement, hein, certainement pas seulement. Moi, je pense qu'il n'y a pas une démocratie directe qui peut sortir aujourd'hui toute casquée, si je puis dire, des ronds-points. Mais il y a certainement des formes à inventer pour pallier le sentiment d'insuffisance démocratique du régime actuel, du système actuel, comme le disait Emmanuel Macron lui-même dans l'extrait que vous avez passé. Et certainement, ça passe par l'invention de formes peut-être d'auto-représentation qui évite le sentiment d'usurpation des porte-paroles. Mais c'est une question extrêmement complexe. D'ailleurs, j'ai vu que dans l'Assemblée des Assemblées, donc cette forme qui essaye de s'inventer à Commercy et qui essaye de rassembler donc des individus autour de ces questions, au fond, de démocratie directe, assez vite, on s'est retrouvé avec, au fond, les fondamentaux du problème de la représentation. Et quelqu'un disait, d'ailleurs, je crois, dans cette assemblée, la démocratie, c'est difficile. La démocratie, c'est difficile parce que sans porte-parole, sans, disons, qu'une certaine structure de délégation soit mise en place, il est difficile de savoir quel est le point de vue disons majoritaire dans un mouvement. Il est difficile de savoir quelles sont les revendications prioritaires. Donc il y a un moment, je crois, où on retrouve des questions de délégation. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une méfiance vis-à-vis des représentants parfois autoproclamés. Il y a une crainte de la cooptation, de l'usurpation. Il y a une crainte aussi, enfin, c'est assez facile de disqualifier un mouvement en disqualifiant son leader. Enfin, on va rechercher dans son passé, dans ses postes, on va s'apercevoir qu'il a écrit des choses parfois assez douteuses. Et voilà, on va disqualifier comme ça tout le mouvement. Donc je pense qu'il y a une conscience du fait qu'il faut se méfier de la personnalisation. En même temps, on sait, alors ça, on retrouve, vous interrogiez commençant sur les sciences sociales. Les sciences sociales sont souvent un peu sceptiques sur l'idée de mouvement absolument sans leader, parce qu'on trouve souvent qu'il y a quand même des gens qui ont initié le mouvement, qui ont une certaine autorité dessus, comme d'ailleurs Priscilla Ludowski ici, qui avait lancé une des premières pétitions, qui avait recueilli plus d'un million de signatures. Elle a une certaine autorité sur le mouvement parce qu'elle l'a initié, c'est l'autorité de l'initiateur. Il y a aussi des gens qui ont un certain bagou, qui ont une certaine faculté à fédérer les paroles. Et on voit qu'ils ont un rôle quand même important dans certains ronds-points. Donc la question du charisme qui m'avait intéressé, qui d'ailleurs, il ne faut pas la situer seulement au sommet de l'État, le charisme du leader peut s'exercer à des niveaux extrêmement variés, y compris dans les mouvements sociaux. Et donc on trouve des pôles comme ça, des personnalités, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont souvent présentés plutôt comme des messagers. On dit on n'est pas les dirigeants du mouvement, on est plutôt les messagers. Et donc il y a quelque chose qui se cherche, je crois, au-delà de la démocratie représentative et de ces conditions actuelles de désignation, qui est une forme peut-être de démocratie donc plus directe, avec la question du référendum, d'initiative citoyenne ou populaire, et avec aussi, je pense, tout ce qui concerne ce qu'on appelait parfois la démocratie délibérative. Alors, c'est un motif qui vient plutôt de Habermas et de l'Allemagne ou d'Amérique latine, mais qui consiste à dire qu'il faut organiser, pas seulement au Parlement, mais un peu dans tout le pays, des formes de délibération. Alors de ce point de vue-là, d'ailleurs, le grand débat n'est pas une initiative inintéressante. Je pense que c'était quelque chose d'assez intelligent qu'a lancé le gouvernement. Mais évidemment, il faut éviter que ce soit cadenassé par des questionnaires, d'ailleurs très biaisés, où on voit que le gouvernement sanctuarise certaines mesures comme la suppression de l'ISF, et donc on met hors débat des choses qui sont au cœur des revendications.
Mais avec la naissance d'ailleurs d'une autre plateforme parallèle ou alternative dont les Gilets jaunes seraient à l'origine, oui, quasiment immédiatement, on voit aussi même comment il est compliqué aujourd'hui d'organiser un grand débat.
Oui, oui, ouais, tout à fait. Et dans les comptes rendus qu'on a déjà, hein, d'un certain nombre de débats, bien sûr, il y a au fond toujours de sortes de questions préalables sur la façon dont on va mener le débat.
Voilà, qui pose les termes du débat.
Qui pose les termes du débat et qui parfois peuvent être interminables. Ce sont des questions très difficiles. D'ailleurs, le mouvement Nuit Debout, qui est très différent dans le sens de celui-là, avait déjà rencontré ce problème. À la fin, il y a un essoufflement aussi par l'impression que débattre à l'infini des conditions du débat, et de désignation des porte-parole, ça peut ne pas mener très loin, et qu'il faut donc, en un sens, quand même se trouver des procédures, trouver des formes. Alors il y a aussi du côté d'ailleurs de la démocratie un peu par ce qu'on appelle la démocratie liquide, hein, la démocratie à l'ère d'Internet, des formes qui permettent de suivre davantage les délégués, de faire que on ne donne pas un mandat comme ça, comme un chèque en blanc à celui qui nous représente ou qui vous représente, mais qu'on va le suivre, qu'il va continuer à être en discussion auprès d'ailleurs de ceux qui le suivent. Bon, alors ça pose d'autres problèmes. Pourquoi est-ce que ce sont ceux qui suivent sur Internet qui ont la parole? Bon, ça pose des questions de représentativité aussi. Mais je pense que tout ça, c'est pour ça que je parlais d'une crise de gouvernementalité ou de gouvernement. C'est tout. On voit que le modèle de la démocratie représentative classique, je pense qu'il ne faut pas du tout le supprimer, parce que c'est une chose qui s'est élaborée au cours des deux siècles derniers, qui a connu une démocratisation. On peut dire qu'au départ, c'était plutôt aristocratique, mais ça s'est démocratisé. Mais que c'est insuffisant et qu'il faut trouver des formes de complément et des formes plus fluides. Et surtout quelque chose qui ne s'arrête pas à l'élection, simplement, à l'élection du président ou du Parlement.
Alors je vous donne un dernier exemple, une autre forme fluide et une autre tentative de déverticalisation. Ils étaient plus d'un million de téléspectateurs fin janvier devant le grand débat organisé par C8 et co-animé par la secrétaire d'État Marlène Schiappa et le présentateur Cyril Hanouna.
On s'est dit qu'on faisait un débat sérieux.
Ouais, c'est ça.
Voilà, moi, l'idée d'être là, c'est aussi d'essayer de cadrer un petit peu les choses. Pour l'instant, j'ai pas fait mention ni de l'Union européenne, j'ai entendu que ça a été dit tout à l'heure, ni de la Constitution, parce qu'à un moment, on fait aussi des propositions et il faudra voir si elles sont constitutionnelles, in fine. Peut-être certaines ne le seront pas. Pour l'instant, je mets pas de bémol, mais on est des gens sérieux, on n'est pas non plus chez les bisounours et on peut pas dire on va prendre le bon d'ici et que ce qui est en plus
c'est en moins.
Donc je crois que c'est important. On est aussi dans un pays, je vais le dire, je suis désolée. Vas-y. Cyril. On est un pays où on aime se plaindre aussi. On est un pays où
Je termine
mon raisonnement.
Si on aimait tant se plaindre, on les connaîtrait tous nos droits
et
on les récupérait nos petits euros qu'on a le droit.
Juste, est-ce que je peux vous répondre deux secondes, Marlène Schiappa? Moi, je pense, Non, mais ça se passe très bien pour l'instant. Et moi, dans tout ce que je vois, dans tous les Français que je vois là, sur le plateau ou sur les réactions sur Twitter, et tous les gens qui sont autour de la table, moi j'ai l'impression au contraire qu'ils aiment leur pays et qu'ils veulent justement se battre pour leur pays. Oui. Et moi, je trouve que c'est ça qui ressort.
Jean-Claude Monod, vous avez écouté ce débat ?
Pas vraiment, j'aurais dû, hein, mais je l'ai raté.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là, puisqu'on parle, pour reprendre les mots d'Isabelle Coutan aussi dans cet ouvrage, on entend quelqu'un d'en haut, hein, une secrétaire d'État contestée aussi avec l'ensemble du gouvernement et de l'exécutif, aller sur un plateau de télé, discuter directement avec les petits moyens, ça c'était aussi les termes d'Isabelle Coutan, une tentative de déverticalisation. Il faut ouvrir partout où c'est possible les espaces de discussion.
Oui, moi je pense qu'il faut ouvrir partout. Alors ensuite, bon, on peut contester le choix de tel ou tel animateur ou telle émission qui n'est peut-être pas la plus, disons, qui n'est peut-être pas le meilleur endroit pour favoriser la délibération. Parce que c'est la délibération, ça n'est pas simplement la discussion, sans ordre et sans aucune, sans aucun effort d'argumentation. Et la délibération normalement inclut l'argumentation, et ce n'est pas donc un échange complètement déréglé d'opinion. Mais le fait que les ministres, les secrétaires d'État cherchent d'autres canaux pour dialoguer, y compris en usant de certains médias inhabituels, moi ça ne me choque pas, si vous voulez. Je pense qu'il ne faut pas avoir une sorte d'aristocratisme du débat. Simplement, je crois qu'il reste beaucoup à inventer de ce côté-là, et peut-être d'ailleurs au plan même institutionnel. D'ailleurs, c'est dans les revendications, je trouve intéressantes, du mouvement, c'est-à-dire penser une autre assemblée qui soit peut-être, alors est-ce qu'elle prendrait la place du Sénat, je ne sais pas, mais où des citoyens désignés autrement que par l'élection, peut-être par tirage au sort, auraient la parole. Donc oui, trouver d'autres lieux, pas seulement chez Hanouna, heureusement, de discussion.
Il nous reste une petite minute, Jean-Claude Monod. À quoi devrait ressembler un chef en démocratie ? Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? C'était le titre de votre ouvrage. À quoi devrait ressembler un chef en démocratie quand le fond de l'air est jaune pour vous ?
Je pense que ça doit être un personnage qui, d'une part, reste évidemment à l'écoute des citoyens, mais surtout dont la politique est orientée vers le bien commun et ne donne pas l'impression d'être orientée vers l'avantage, disons, des plus avantagés. C'est une idée que Aristote attachait déjà à la démocratie. Il disait que la démocratie, d'ailleurs, il le disait pas forcément bien à l'époque, mais elle, c'est aussi le régime des pauvres. C'est un régime qui doit être favorable aux pauvres. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'un chef démocratique doit davantage porter son attention sur les groupes les plus défavorisés ou sur les groupes qui, disons, se sentent ignorés par le gouvernement. Et c'est ce qui a beaucoup manqué à Emmanuel Macron, je crois d'ailleurs aussi par un peu une erreur du diagnostic qui lui a fait penser que les Français regrettaient la mort du roi et regrettaient un roi. Je crois que chef démocratique, ça n'est pas du tout le roi. Et de ce point de vue-là, il y a eu une erreur assez lourde à redresser.
Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Monod. Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? C'était votre ouvrage paru au Seuil en 2012 et vous êtes aujourd'hui l'un des contributeurs de Le fond de l'air est jaune, comprendre une révolte inédite qui paraît au Seuil. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à la réalisation aujourd'hui, Anna Holweck avec Clément Daté. À la Grande Table des idées, c'était Mayane Escovic avec Laura Dutèche-Pérez. Et à la Grande Table culture, Oriane Delacroix avec Henri Leblanc. Très bel après-midi à tous sur France Culture.